La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardi du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Bonjour, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Gilles Laferté, qui est directeur de recherche en sociologie au Césaire, c'est le centre d'économie et de sociologie appliquée aux espaces ruraux.
Exactement.
Voilà. Et vous avez fait paraître plusieurs ouvrages. Hein. Donc un en collaboration, en direction avec Nicolas Renaï, Julien Michy et Yvan Bruneau, qui s'appelle « Monde ruraux et classe sociale » aux éditions de l'EHESS. Et vous, tout seul, après, vous avez fait un ouvrage qui s'appelle « L'embourgeoisement, une enquête chez les céréaliers » aux éditions Raison d'agir. Eh ben, bonjour. Eh ben, tout d'abord, on va plutôt aborder l'ouvrage collectif hein, sur le monde ruraux et classe sociale, où c'est plusieurs travaux. Hein, vous avez coordonné plusieurs travaux en la matière par rapport à qu'il y avait un peu un impensé sur la pluralité des mondes ruraux et de niveau des social, au niveau de la hiérarchie sociale, des questions de classe sociale, de domination, d'affiliation sociale ou d'interaction entre les populations qui étaient assez diverses et variées. Et peut-être en introduction, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu faire ce livre, peut-être parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là et qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux en la matière. Sociologie des classes sociales dans les mondes ruraux au pluriel.
Bonjour. Oui, effectivement, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de marquer un moment dans l'histoire des sciences sociales autour de l'objet des espaces ruraux. Et effectivement, l'objectif, il était multiple, mais le premier objectif est de signaler que bien au-delà d'une coupure urbain-rurale qui a générer une conceptualisation particulière dans la sociologie rurale française autour de notions de village, de communauté, de paysannerie, et que donc l'ensemble de cette conceptualisation était plutôt obsolète quand nous on entre en sociologie à la fin des années 90, début des années 2000. Et bien donc il fallait adopter les lunettes plutôt classiques de la sociologie en termes de classe sociale notamment, mais aussi en termes de sociologie économique, de sociologie politique classique pour repenser les espaces ruraux et les sortir d'une représentation commune toujours ramenée à une forme un peu de différence fondamentale par rapport aux espaces urbains. Donc ce moment-là, il a été pour nous important et donc ce qui est saillant, c'est que si on prend une lunette en termes de classe sociale, de groupes sociaux à minima, on se rend bien compte que les espaces ruraux ne sont pas superposables à des espaces agricoles comme ils l'ont été longtemps décrits et que depuis très longtemps ce sont des espaces industriels, ouvriers et qu'aujourd'hui on a une rediversification très très forte autour d'un nombre d'emplois d'employés notamment du care, du soin et également une repopulation par des cadres supérieurs, notamment pour dans une vision d'espace de loisirs. Donc on a l'ambition de ce livre et de notre programme de recherche, effectivement, de replacer la description des espaces ruraux, non pas dans une conceptualisation différente, mais une conceptualisation complètement standard de la sociologie, mais par contre pour dire une différence de structuration sociale. C'est ce qu'on a essayé d'introduire avec la notion d'espace social localisé, pour dire que en moyenne, il y a une vraie différence par rapport aux grands espaces urbains et que donc du coup les espaces sociaux à chaque lieu, dans chaque configuration, présentent des singularités et que donc les groupes dominants peuvent avoir des caractéristiques un peu différentes que dans d'autres espaces et c'est ça qu'on s'est attaché à faire plutôt que de raisonner sur une moyenne nationale qui a une tendance à lisser les rapports de force aux échelles locales.
Oui, hein. Par exemple, hein, vous dites que on confondait trop souvent les positions sociales, enfin, des nomenclatures comme ça définies, avec les rapports de domination en pratique. Du coup, qu'on pouvait pas voir qu'est-ce qui faisait groupe, qu'est-ce qui faisait affiliation, qu'est-ce qu'on pouvait faire, au contraire, dissociation. Qu'est-ce que le renouvellement d'un groupe social il devait au contexte local? Aussi en termes de transmission familiale, en termes de rapport aux institutions, en termes de construction d'un entre-soi, en termes d'entrée dans la vie active, dans le travail, etc., etc. Enfin, tout ça, ça jouait beaucoup sur comment la reproduction sociale, enfin la classe sociale joue dans ces espaces ruraux qui sont diverses.
Eh ben oui. Si on prend l'exemple des agriculteurs, pareil, si on veut comprendre la domination dans les conseils municipaux, la place des élus ruraux, des agriculteurs dans les élus ruraux, des villages, des petites communes, et qui est donc pas une monopolisation, mais enfin une surreprésentation importante du groupe agricole, on ne peut pas la comprendre si on regarde les statistiques nationales, et encore moins la conceptualisation canonique, classique de la sociologie rurale qui les place comme des classes populaires ou des petites classes moyennes. On ne comprend absolument pas comment ils peuvent accéder à des positions de pouvoir si on reste sur une échelle nationale. Par contre, si on leur recontextualise localement, si on refait le dessin des rapports de domination, alors à position sociale différente, on peut avoir des attributs sociaux différents, on peut avoir des positions de domination dans l'espace local. Mais c'est une expérience que chacun d'entre nous, je pense, peut tout à fait faire sur la place centrale de la géographie dans son positionnement social. Il suffit de passer d'un quartier populaire à un quartier bourgeois dans une agglomération ou d'un espace rural très gentrifié, comme je sais pas moi, le Luberon ou des zones balnéaires bretonnes ou de la Côte d'Azur à des zones populaires d'espaces ruraux pour sentir qu'on n'est pas du tout dans les mêmes lieux et que nos stratégies de distinction ou de bien-être ou de mal-être, de malaise social, on les expérimente tout de suite. Donc on voit très très bien qu'il y a une tonalité au lieu et que réfléchir sur des moyennes sociologiques à l'échelle nationale peut être une sorte de voile, de paravent pour essayer de comprendre les structurations sociales dans un espace concret. Donc l'idée centrale hein, est de réinclure la géographie dans les rapports de domination qui permettent de comprendre que des catégories sociales dans des espaces très populaires, à tonalité populaire, des catégories sociales qui, dans l'espace national, seraient pas très hauts, se retrouvent surévaluées, et inversement, dans les grandes villes, et principalement à Paris, des catégories sociales vont se penser comme deux classes moyennes, alors qu'ailleurs, elles seraient de classe supérieure.
Tout à fait. Ce qui était aussi intéressant, c'est que donc vous disiez donc l'espace local, enfin le lieu où on habite. C'est aussi le cadre où se forgent ben, les trajectoires personnelles, où se nouent les liens d'interdépendance, etc., etc. Mais à cause d'un certain angle mort territorial de stratification un peu de centralisme un peu technocratique, il y a une tendance à lire, à lire tout ça avec un implicite urbain. Donc, par exemple, quelque chose qui illustre très bien ça, c'est l'été dernier, là, en juin, il y a le gouvernement qui avait lancé ce qu'on appelle un plan ruralité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan ruralité, hein, qui, entre guillemets, je cite, c'était entendait lutter contre le sentiment d'abandon et, je cite hein, toujours, entre guillemets, permettre à la ruralité d'exprimer son potentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une centaine de chefs de projet pour travailler sur l'ingénierie pour les petites communes, avec des fonds pour valoriser les transports, enfin, optimiser le transport non carboné, mais aussi une fiscalité avantageuse pour les zones en déprise, etc. Mais pour obtenir les fonds de financement, tout devait passer par ce qu'on appelle, en termes managériaux, du projet. C'est un peu. Il y a Olivier Boubaolga qui travaille sur la territorialité et dit que c'est l'idéologie CAM, il appelle ça compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. En fait, il y a une méconnaissance totale des mondes ruraux qui sont pensés à l'écart de la modernité urbaine, alors que les disparités dans les mondes ruraux sont plutôt sociales, économiques et socio-culturelles. C'est pas trop la différence entre urbain et rural, et c'est trop pensé à ce niveau-là, au niveau des politiques publiques. C'est ça qui est aussi problématique.
Bah, la logique du projet, effectivement, elle va avoir une tendance à mettre en compétition ceux qui vont être capables de se saisir des outils et ceux qui vont être mal armés pour rédiger, pour comprendre entre les lignes ce qui est requis pour réussir son projet avec un ensemble de mots-clés pour entrer dans les valises, dans les catégories de l'action publique. Et donc, à l'évidence, c'est pas une politique pour tous, c'est une politique pour ceux qui savent se vendre un projet qui rentre dans les clous de la politique publique. Mais ce qui est important, je pense, c'est de toujours tout mettre au pluriel, hein. C'est-à-dire que les situations de ce qu'on homogénéise sous le terme de ruralité renvoient non pas à un infini des possibles, hein, mais à des caractéristiques très différentes selon les lieux. Et ça n'a rien à voir les espaces balnéaires ou les espaces touristiques gentrifiés montagnards ou les espaces industriels ruraux ou les espaces agricoles de productivisme versus les espaces agricoles alternatifs. Donc on a un camaïeu de différentes situations ou des zones périurbaines, un camaïeu de situations qu'il faut vraiment prendre avec précaution avant de tout homogénéiser sous le terme de ruralité. C'est comme si on traitait la ville avec un seul mot, l'urbain, et qu'on traitait les quartiers populaires de banlieue de la même manière que les quartiers bourgeois des centres-villes urbains français. Alors que quand on parle de politique de la ville, on a tendance à penser aux quartiers défavorisés et aux périphéries. Quand on parle ruralité, on a encore, et la puissance publique également, encore du mal à différencier selon les lieux et à caractériser des lieux différenciés qui relèvent de problématiques sociales ou politiques absolument différentes. Donc il faut que les politiques publiques rentrent dans cette diversité des espaces ruraux si elles veulent avoir des outils les plus adaptés possibles à la singularité des cas.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep I keep the ins out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Pour faire la transition avec votre ouvrage sur les céréaliers, faut dire que aussi les différences de classe hein, dans un vaste territoire, mais qui est composé de zones qui sont quand même contiguës. Comment ces différences, elles se voient quand la hiérarchie sociale n'a rien d'immuable. Par exemple, il y a des fractions du monde agricole qui étaient autrefois proches et plutôt classées comme classe populaire qui vont intégrer les couches supérieures. Mais aussi des fractions des classes populaires selon l'ancrage qu'ils ont dans le salariat, selon la stabilisation professionnelle, ça va pas être immuable. Il y a des mobilités sociales qui sont à l'œuvre, notamment depuis la démocratisation scolaire des années 70, et les espaces ruraux sont aussi traversés par ces changements de mécanismes, un peu de reconfiguration de l'espace social. Et on pourrait peut-être le voir notamment avec l'enquête que vous avez faite sur les céréaliers d'une région, où est-ce que c'est cette région, je ne m'en rappelle plus, mais...
C'est l'est de la France, c'est entre la Bourgogne et la Champagne. En général, on évite de nommer trop précisément pour des problèmes d'anonymisation.
Le centre-est, donc, vous dites.
Voilà, on reste un peu flou, pour même si tout est anonymisé dans les ouvrages. Bien sûr que les gens peuvent parfois se reconnaître, et donc c'est toujours compliqué pour nous. On a une éthique de l'anonymisation pour essayer de perturber au minimum la vie des enquêtés que nous suivons.
Et donc, par rapport, donc c'est intéressant, on va plutôt s'attarder sur cette enquête hein, que vous avez faite sur le Châtillonnais, hein, comme vous dites, hein, de la modernisation agricole du 19e siècle à nos jours, que vous appelez donc l'embourgeoisement agricole. Vous nous direz peut-être pourquoi vous avez choisi ce terme, vous l'expliquez hein, dans votre livre, que en gros, hein, que la modernisation de l'agriculture, elle n'a pas engendré comme seul phénomène la fin des paysans, qui avait été annoncée par Henri Mandras dans son livre en 1967, parce qu'il y avait aussi des fractions du monde agricole qui s'étaient enrichies. Alors il y a le cas de la vigne, des vignerons, et le cas des céréaliers. Hein, ces gros agriculteurs, voilà. Ils sont devenus entrepreneurs de très grosses exploitations, même à la pointe de la technologie depuis les années 70. Mais là, nous, vous retracez plutôt leur histoire donc depuis un petit siècle, à travers tout ce qu'ils vont pour s'embourgeoiser. Hein, ils vont avoir l'accumulation patrimoniale, ils vont avoir un rôle de notabilité locale, un rôle politique notable. Ils vont acquérir des pavillons, donc ils vont investir aussi dans l'immobilier. Leurs enfants, petit à petit, vont faire des études supérieures, etc. etc. Voilà. Il y aura quelques traits caractéristiques, mais peut-être vous pourrez peut-être nous présenter ce travail que vous avez fait dans cette région entre 2007 et 2015. Hein, c'est ça, hein, apparemment. Vous avez enquêté entre 2007 et 2015 sur cette région pour faire cet ouvrage.
Oui, bah c'est le temps long de l'ethnographie, hein, donc cette méthode qui consiste à entrer au plus près des personnes qu'on enquête par des logiques d'entretien, de participation à plusieurs de leurs activités. Et donc cette logique d'immersion, elle prend du temps. Et effectivement, il y a eu aussi toute une partie archivistique à l'enquête, qui conduit à mener une enquête sur le siècle et de suivre des familles sur le temps long. Et le mot d'embourgeoisement, il est, pour moi, si je l'ai choisi, c'est qu'il est, c'est à dessein, c'est peut-être pas toujours calé sur le sens commun, mais c'est pour opposer différentes trajectoires de mobilité sociale, Et les opposer à celles qui sont aujourd'hui extrêmement étudiées en sociologie autour, qu'on pourrait résumer sous le vocable de gentrification ou de mobilité par ce qu'on appelle le capital culturel, donc par l'ascension, par les diplômes, par l'école. Là, ce qui est frappant dans le cas des agriculteurs, c'est qu'ils ne changent absolument pas de catégorie sociale, ils restent agriculteurs, mais ils accumulent du capital économique, notamment du capital d'abord foncier, puis comme vous l'avez dit, immobilier, puis aujourd'hui financier. Et après, leurs enfants, effectivement, transforment ça en capital culturel autour de diplômes. Mais c'est une mobilité par le capital économique et par des catégories indépendantes et non pas des mobilités par le diplôme, qui sont l'essentiel des mobilités étudiées en sociologie. Et c'est une mobilité qui est intéressante parce qu'en sociologie, on dit souvent que la mobilité sociale passe par le changement de catégorie de catégorie socio-professionnelle. Or là, on reste au sein d'une même catégorie sociale. Et donc le sociologue, d'une certaine manière, vu de loin, vu de l'INSEE, il est complètement aveugle de ses mobilités, puisque les gens ne changent pas de catégorie sociale. Par contre, ils changent très nettement de patrimoine et de revenus aussi, même si c'est très très compliqué à calculer les revenus des agriculteurs. Donc l'idée qu'il y aurait différents types de mobilité et que ces trajectoires-là passent pas simplement par du diplôme ou du capital culturel, mais passent par du capital économique et des positions de pouvoir dans l'espace local, notamment dans l'espace politique, associatif, syndical, dans les conseils d'administration, des différentes structures, soit du monde agricole, soit du monde qui est para-agricole. Donc là, il me semble que ces trajectoires-là sont sous-étudiées en France en général, et donc tout le monde de l'artisanat, de l'entreprise, de l'indépendance, qui aujourd'hui regagne du terrain en termes de chiffres par rapport au monde du salariat qui est très marqué par le diplôme, sont tout à fait reproductibles. Hein, l'analyse de l'embourgeoisement est certainement reproductible dans beaucoup d'autres situations sociales aujourd'hui. Et donc j'essayais de marquer deux temps assez distincts. Et donc sur les espaces ruraux en particulier, je pense que c'est significatif parce que la place des indépendants au sens agriculteurs, mais aussi artisans, chefs d'entreprise de PME, est singulière puisque leur capital économique et leur capacité à embaucher, alors surtout dans l'artisanat et les entreprises, un peu moins dans l'agriculture, mais quand même aussi dans l'agriculture, leur donne une position d'employeur et donc leur donne une position surévaluée par rapport aux moyennes nationales, par rapport à un artisan dans un espace urbain, la position tout de suite d'être quelqu'un d'important à l'échelle de la petite commune, du village, du bourg, va donner des responsabilités en général de représentation à ces personnes qui vont du coup être un peu surévaluées socialement. Et donc cet embourgeoisement, il est d'autant plus fort qu'il se passe dans des espaces où la concurrence des élites est beaucoup plus faible. Puisqu'il n'y a pas ou peu de catégories de cadres supérieurs, moyens supérieurs en phase 2 qui désirent s'investir localement. Donc j'aimais beaucoup cette idée d'essayer de ne pas homogénéiser les trajectoires de mobilité sociale et de réinclure la géographie dans les mobilités sociales.
Et alors vous dites que c'est ni des paysans empaysannés, ni une bourgeoisie agricole établie de longue date, plutôt les enfants de la modernisation agricole, qui ont, voilà, connaissent une mobilisation ascendante depuis des décennies, donc sur le temps long. Hein. Donc là, plus particulièrement avec la modernisation des années 60, la PAC, etc., etc., il y a eu beaucoup de fonds, c'était les gagnants du productivisme, hein, parce qu'ils sont... Voilà, en fait, ils sont sur des terres qu'ils ont acquises au tournant du 20e siècle, des terres qui étaient peu productives avant la Première Guerre mondiale, qui avaient en leur temps précipité un désert rural et une baisse de la population active agricole. Et ces céréaliers là, c'était des anciens, des exploitants propriétaires agricoles, qui ont multiplié leur surface, hein, à cause des prix bas du foncier, par 10, voire par 20. Donc, ils ont fait vraiment des grosses entreprises, des grosses entreprises, et donc ils ont pu donc bénéficier d'un certain modèle pour acquérir donc du revenu, mais aussi du patrimoine foncier, puis du patrimoine immobilier, etc., etc. Voilà, ça s'est un peu passé sur le temps long au fil des évolutions du marché et d'évolution et locale et mondiale. Et je ne sais pas si vous pouvez encore rajouter par rapport à ça ou...
Si, c'est l'intérêt du cas ethnographique. C'est-à-dire, bien sûr, quand on est en ethnographie, qu'on fait une immersion dans un monde, c'est coûteux, vous avez rappelé le nombre d'années d'enquête, et donc on tombe sur des lieux qui sont singuliers. Donc la critique qu'on a tout le temps, c'est « Ah ben oui, mais vous, c'est particulier, c'est ce terrain-là, c'est une ethnographie, mais jusqu'où c'est représentatif ? Donc, il faut repasser par les statistiques, donc par des moyennes, et on écrase tout, et on voit plus la différence. » Alors que là, en raisonnant par cas, j'ai bien conscience qu'il a des singularités, ce cas-là. Et là, il y a un effet de loupe sur la logique de la modernisation agricole, puisqu'effectivement, les terres en question sont avant la mécanisation importante de l'agriculture et la mise en place d'un intrants chimiques, étaient très très peu rentables, et donc c'était des terres à moutons. Or, là, au 19e, et donc une production de laine. Or, la modernisation agricole, dès le début du XXe siècle et surtout après-guerre, a fait de ces terres des terres à céréales. Et donc, du coup, ils ont eu une transformation productive très, très importante et donc qui a bénéficié à la valorisation, une sorte d'accélération par rapport aux effets classiques de la modernisation. Et l'autre point qui me semblait aussi particulièrement singulier de ce travail, de ce terrain d'étude, c'est qu'on est sur des territoires qui ont été très fortement en amont de l'exode rural du 19e siècle, hein, puisque justement c'était des terres pauvres, et donc ont été abandonnées avant les terres riches agricoles, et donc il y avait un départ un peu plus rapide, un peu plus précoce que dans les autres campagnes françaises. Pour ces espaces-là. Et la Première Guerre mondiale a encore précipité un départ un peu plus important. Et du coup, dans les années 20, il y a énormément d'espaces agricoles qui coûtent rien, qui sont à racheter. Et donc ceux qui arrivent, là, il y a plein de nouveaux arrivants. Et ça, c'est une histoire aussi très intéressante parce qu'on parle tout le temps de l'idée, notamment en sociologie, de la fin des paysans, c'est qu'il y aurait eu une civilisation paysanne. En histoire aussi, on peut entendre parfois ce genre de propos, mais qui sont aujourd'hui... très fortement critiqué, l'idée d'une sorte d'immobilité des campagnes pendant une très longue période, alors que là, non, là, on a beaucoup de migrations, énormément d'arrivées, beaucoup de Belgique, de Suisse, du nord-est de la France, des Pays-Bas, et donc qui viennent en vendant des terres agricoles beaucoup plus valorisées, mais qui sont grignotées par l'urbanisation. Ils vendent leurs terres, ils viennent s'installer dans ces zones peu désirables à l'époque et sur de très grandes exploitations déjà pour l'époque. Et puis, à mesure que d'alliances entre les familles, ils multiplient par 2, 3, 10 leurs exploitations pour arriver aujourd'hui à une moyenne de 150 ou 200 hectares par exploitation céréalière. Donc la dynamique... du foncier et la dynamique de la migration est ici essentielle pour stabiliser des positions agricoles et ce que j'appelle une réussite garantie, hein, réussite sociale garantie, puisque quand on a suffisamment de foncier en agriculture céréalière, on s'assure un avenir. Bon, chaque génération doit avoir un taux plus élevé de terre, mais le départ des uns fait la stabilisation de ceux qui restent. Hein, ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est donc une catégorie sociale, d'une certaine manière, l'agriculture qui est cannibale, parce qu'elle doit s'auto-grignoter pour que ceux qui restent puissent avoir suffisamment de capital foncier pour se maintenir et en vivre correctement, voire profitablement.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est comment vous les qualifiez. Vous parlez de classe populaire argentée. Donc, c'est pas pour dire que c'est pas des bourgeois au sens propre, parce que enfin, dans le terme sociologie, la bourgeoisie, c'est pas qu'économique, c'est aussi au niveau culturel. Voilà, il y a une certaine norme au niveau des pratiques et des goûts avec une, voilà, qui un certain monde qui eux ils sont pas dans ce monde-là. Ils ont un certain ils ont gardé comme ça un certain ethos des classes populaires avec tout ce qui a trait au faire, au travail, par rapport à leur cellule familiale, etc., etc. Mais ils sont enrichis économiquement, donc c'est un peu un entre-deux comme ça. C'est assez, voilà, c'est assez intéressant. On a pu parler de classe populaire argentée aussi pour certains footballeurs professionnels qui seraient enrichis, mais qui auraient aussi gardé ce qu'on appelle les valeurs du monde des classes populaires. Voilà, ça peut aussi faire penser à ça. À ce niveau-là, sans faire de comparaison, non. Mais bon, c'est intéressant comme approche.
Bah oui, moi, le cas des footballeurs m'a beaucoup, beaucoup intéressé pour mes agriculteurs. Alors, on peut, vu de loin, on peut se dire, mais c'est quoi le Schmilblick, c'est quoi le lien? Mais ce sont les footballeurs vivent en une dizaine d'années, le temps très court de leur carrière, ce que les agriculteurs peuvent vivre sur un temps de 2-3 générations. C'est-à-dire, le fait d'avoir un choc économique ou un enrichissement, c'est un choc économique pour les footballeurs, là c'est un enrichissement progressif pour les agriculteurs, mais qui se fait sans l'accumulation parallèle du capital culturel, qui fait que progressivement on va s'afficher sur les standards de la bourgeoisie. Donc le capital culturel, bien sûr, le diplôme, mais ça passe par la structure des goûts, la manière de s'habiller, de parler, le goût pour les arts légitimes, la musique classique, l'opéra, ou le rock'n'roll, la musique contemporaine, et pas les goûts de musique populaire. Donc voilà, ou dans les pratiques sportives aussi, le goût pour le foot qui reste très très présent chez les agriculteurs, ou la manière justement de... J'ai beaucoup travaillé moi pour étudier ça sur l'habitat. Donc les pavillons, ce qui m'a frappé, c'est que donc à l'échelle des espaces ruraux qui aujourd'hui sont autant des espaces productifs que récréatifs, les agriculteurs construisent des gros pavillons qui sont proches d'une des pavillons des classes populaires, mais en plus gros, en plus grand, ou proches des pavillons des zones périurbaines des grandes villes, alors que la bourgeoisie qui vient dans ces mêmes endroits en résidence secondaire, elle se pique d'acheter les vieux corps de ferme, de les retaper, ou les vieilles bâtisses bourgeoises, et qui, elle, veut patrimonialiser son espace d'habitation, avec un goût de l'authentique ou de matériaux gentrifiés, où on va repeindre style provençal, style breton de maison. On va surtout remettre en valeur la pierre, et on va être contre un enduit sur la façade, on va valoriser le bois. Et donc toute cette stratégie de présentation de son habitat ou de goût sur les habitats donne des manières de voir culturellement, concrètement, dans quel type d'horizon culturel se positionnent ces agriculteurs. Et ils sont justement effectivement dans cet entre-deux où ils ont, c'est pour ça que je parle d'embourgeoisement, c'est qu'ils sont pas du tout dans les systèmes de goût des catégories gentrifiées, ils sont dans les systèmes de goût des classes populaires en grand ou des bourgeoisies les plus conservatrices. On va faire des portails classiques en fer forgé. On va pas du tout les gentrifieurs, ce qui est marquant, c'est qu'ils vont revaloriser du populaire, parce que ça n'est pas populaire, parce que comme ils appartiennent à la classe supérieure, ils détiennent la culture, tout ce qu'ils transforment est légitime, puisque ils sont eux-mêmes détenteurs de la culture. Alors que là, se sentant pas possédés par la culture, on va essayer de plagier les formes les plus traditionnelles de la domination. Donc on va prendre des formes, ce que j'appelle des pavillons châteaux, qu'on a les moyens. On va essayer de faire des coursives, de faire des fenêtres classiques. On n'est pas du tout dans une réinterprétation par les codes des couleurs, des modèles disponibles pour patrimonialiser les espaces ruraux. Donc on a vraiment des tendances très très différenciées, et bien sûr, hein, là je caricature un peu, selon notamment les trajectoires des épouses, les trajectoires des frères et sœurs, des familles, on va avoir un écart plus ou moins fort au modèle de la gentrification rurale de ces agriculteurs versus une adhésion plus ou moins forte au modèle du populaire en grand, qui a été fortement remarqué aussi auprès des footballeurs, hein, qui ont cette logique un peu démonstrative de faire en grand ce que leurs origines sociales et leurs congénères font en petit.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell.
On va plutôt finir sur donc, les questions d'actualité avec certains mouvements de colère qui s'est exprimé les agriculteurs, bon, qu'on voit médiatiquement derrière des figures syndicales qui ne sont pas forcément représentatives, voire même pas du tout représentatives, mais ceux qu'on entend dans le discours médiatique, alors que derrière c'est bien autre chose qui se joue. Et normalement, si j'avais fait le titre d'un article qu'il y a quelques années, hein, vous avez fait, que je trouvais assez parlant, c'était « Loin de l'éternel paysan, la figure très paradoxale de l'agriculteur français qui est au carrefour d'injonctions contradictoires et de projets sociaux contradictoires ». Et c'est bien ça le problème, hein, dans ce qui se passe dans la crise actuelle, hein, à la à laquelle on assiste, parce que donc du coup les paysans hein, c'est de, sont même plus devenus les paysans, ce sont devenus des exploitants agricoles. Et maintenant, on veut qu'ils deviennent même des entrepreneurs et des entrepreneurs entre guillemets paysagistes éco-responsables. Et donc, du coup, voilà, il y a plein d'injonctions contradictoires, de modèles contradictoires qui arrivent voilà, qui chamboulent un peu tout et les imaginaires et les modes de vie. Et ce qui était aussi bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui était auparavant perçu comme quelque chose de cohérent et de cohésif au niveau de l'agriculture, c'est devenu explosif. Voilà, la marmite, elle a explosé. Bon, ça couvait depuis longtemps avec des rustines, mais là, ça a vraiment explosé. Donc, je sais pas si vous avez travailler un peu dessus. Je ne sais pas ce que vous avez à nous dire par rapport à ça, ou pour faire peut-être une histoire au temps long, ou juste par rapport aux derniers événements récents. Mais il y a peut-être besoin de faire une petite histoire au temps long de tout ça. C'est pas venu d'un coup comme ça depuis quelques mois, depuis ces fameux panneaux des villes renversés d'un monde à l'envers, comme ils disent.
Oui, je trouve que c'est les panneaux à l'envers sont très expressifs de la position sociale des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on aurait la démonstration qu'ils sont très proches des mairies, hein, et qu'ils ont un pouvoir local, c'est-à-dire la capacité à agir directement sur l'espace public. Il y a peu de catégories sociales qui, comme ça, peuvent transformer le mobilier urbain sans que les autres catégories présentes dans l'espace local puissent y dire quelque chose, quoi. Donc je trouve que c'est une très belle illustration de la place de notabilité que joue l'agriculture dans beaucoup de villages et qui leur permet d'accéder à des formes d'expression politique qui sont inaccessibles à plein d'autres catégories sociales, hein. Toutes les personnes, toutes les classes populaires les plus grandes difficultés dans les espaces ruraux jamais ne se sentiraient autorisées à agir sur l'espace public de cette manière. Donc il y a quelque chose d'assez frappant dans ces mobilisations récentes, hein, c'est la très forte capacité à se mobiliser des agriculteurs en comparaison des autres catégories sociales, et une capacité à se mobiliser et une capacité à être entendu par les pouvoirs publics. On ne tape pas sur les agriculteurs, ils ont une capacité à aller beaucoup plus loin dans leur mobilisation que les autres groupes sociaux, parce qu'ils incarnent du patrimoine, parce qu'ils incarnent du capital, parce qu'ils sont des entrepreneurs, des patrons, parce qu'ils ont bénéficient d'une sympathie dans la population pour leur cause quand il s'agit de difficultés sociales et de revenus pour des personnes et des catégories qui ne sont pas censées être explosives du point de vue de la République et qui donc ne sont pas du tout comme les mouvements ouvriers qui seraient eux rangés du côté de la révolution, voire du danger pour la République. Donc toute cette histoire longue des mouvements paysans, c'est des mouvements de colère, mais c'est des mouvements d'adhésion à la République. Donc aujourd'hui, on pourrait se reposer la question avec la place de l'extrême droite dans les espaces ruraux, mais en tout cas, toute la longue histoire entre l'État et les mouvements paysans et agricoles est un mouvement très très différent de toutes les histoires des mouvements sociaux, de la gauche et des mouvements ouvriers. Donc ça, c'est quand même un point qui aujourd'hui saute aux yeux, hein, après les gilets jaunes, ces mouvements paysans qui peuvent aller très loin et qui ne sont pas réprimés ou peu réprimés. Donc ça, c'est quand même important. Et puis sinon, après, je pense qu'il y a quand même ce qui est fascinant dans ce mouvement, c'est qu'on dit toujours les agriculteurs, hein, même si on a eu plusieurs données qui ont été quand même bien construites, hein, par les médias, je trouve, sur la différence entre les différentes catégories d'agriculteurs. Mais en tout cas, les agriculteurs se présentent eux toujours, enfin, la force des syndicats agricoles, comme étant supposaient tous avoir des problèmes de revenus, supposaient tous avoir des problèmes relativement homologues, alors que ça concerne des catégories très différentes. Hein, donc bien sûr les céréaliers, les éleveurs porcins ou les grands céréaliers, les éleveurs porcins ou des producteurs de vin de luxe ne sont absolument pas dans des difficultés de revenus. Par contre, effectivement, les producteurs laitiers, les éleveurs, bovins notamment, peuvent se retrouver dans des difficultés, voire de très très grosses difficultés économiques. Donc il y a un écart entre les différentes catégories professionnelles, à la fois géographiques et de spécialisation technique, qui est très très fort. Or, il se présente encore et très souvent sur des modes assez semblable de revendications, ce qui fait que je pense que dans le débat public ou l'espace public ou l'espace médiatique, pour les personnes qui sont à distance des agriculteurs, il y a une façon de recevoir ces discours en les homogénéisant sur l'agriculture française. Ils auraient tous des problèmes, ils auraient tous des problèmes de revenus ou des problèmes de autour des normes qui seraient les mêmes pour tous. Donc, or, selon les syndicats, quand on prête une oreille un peu plus attentive, les revendications ne sont pas les mêmes. Et notamment, la FNSEA va avoir une revendication pour maintenir un modèle productiviste le plus longtemps possible. Hein, toutes les débats autour des normes, autour des intrants, des pesticides et réduction du glyphosate et tout ça, c'est porté par eux, alors que la Confédération paysanne va beaucoup plus porter l'accent sur les revenus. Notamment sur les prix garantis, sur la possibilité de dégager un revenu de son activité, du maintien de plus petites structures dans l'espace agricole contemporain. Donc il y a un débat quand même important entre les façons de percevoir l'agriculture et la manière dont l'État et le gouvernement se saisissent ou pas des différentes revendications selon les différents syndicats dans ce mouvement. Mais donc moi ce que je tiens à dire, c'est que l'agriculture est très composite et très différenciée. Or les syndicats les réussis à les présenter de manière relativement homogène, créant de relatives distorsions dans l'espace public pour se représenter ce qu'est aujourd'hui l'agriculture en France.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce groupe, les agriculteurs, les groupes agricoles, c'est des gens qui sont assez âgés. Hein. La moyenne d'âge actif, ça dépasse les 50 ans en moyenne. Et donc, c'est traversé par un enjeu de renouvellement de génération. D'ailleurs, c'est aussi un des groupes les plus endogames qui soit dit en parlant. Et donc, être agriculteur, c'est surtout être enfant de l'agriculteur ou marié à un enfant de l'agriculteur, en général. Mais il y a aussi un autre modèle avec des nouveaux venus qui, eux, ne sont pas des fils d'agriculteurs, mais qui ont des désirs d'agriculture qui sont plutôt portés par la Confédération paysanne. C'est des gens qui cherchent du sens dans l'agriculture, qui veulent faire des agricultures sans polluer, contre l'agriculteur, contre la globalisation, enfin des modèles alternatifs. Et qui ont aussi du capital culturel et autres. Et c'est d'autres gens. C'est pas mal des nouveaux entrants qui rentrent dans l'agriculture, qui viennent de cette sphère-là. Et ça va générer d'énormes écarts dans le monde agricole entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Et pas mal des conflits entre ces générations sur quelle forme d'agriculture choisir et quel discours y porter dessus, où les gros producteurs, donc sur lesquels vous avez enquêté, les céréaliers ou même d'autres, ils vont être qualifiés vu d'assister des subventions de la PAC, de pollueurs, etc. Et les autres, ils vont être taxés de gauchistes, de décroissants, enfin bref, voilà, avec au sein du monde agricole, il y a certaines tensions. Mais qu'on peut voir aussi, vous en avez parlé dans votre livre aussi, on peut voir ça aussi en termes de, bon c'est un peu schématique, mais en termes de classe, un conflit entre les pôles économiques et culturels des élites agricoles, entre la Confédération paysanne qui serait un peu les élites culturelles agricole avec le capital culturel et la Fenestroa qui serait plutôt les élites économiques. On avait eu un entretien avec Élie Guéraud sur la petite bourgeoisie culturelle, hein, ça renvoie un peu à ces questions-là et c'est aussi en jeu dans le mouvement puisque les questions portées sont vraiment pas du tout les mêmes et voilà, les discours sont pas les mêmes et les populations touchées sont pas du tout les mêmes et voilà, ça crée aussi un dissensus interne, comme on peut dire.
Oui, et moi, ce qui m'a frappé sur mon terrain, c'est que là, le conflit qu'on pourrait croire entre des mondes agricoles différents, soit la Confédération paysanne versus la FNSEA, soit entre des types de production différentes, agriculture alternative versus agriculture céréalière productiviste, c'est aussi dans un monde productiviste tel que moi je l'ai observé chez les grands céréaliers, ce sont des conflits de génération. Les enfants, les céréaliers, qui vont dans les écoles d'ingénieurs agronomes parce qu'ils réussissent leurs études, mais il y a quand même l'idée qu'ils pourraient devoir reprendre. Donc ils gardent un pied dans les mondes agricoles. Donc quand ils réussissent leurs études, il y en a beaucoup qui se retrouvent en école d'agronomie, vont se retrouver en conflit avec le système parental de production parce qu'ils vont porter la transformation agroécologique. Et donc au sein même des familles agricoles, ce conflit générationnel sur le sens de l'agriculture, l'orientation productive, sur l'injonction qui a été faite à leurs parents d'être des fournisseurs de denrées alimentaires, d'autosuffisance alimentaire pour la France, d'exportation, donc d'un modèle productiviste. Les enfants qui arrivent aujourd'hui par le système agricole standard des lycées agricoles et des écoles d'agronomie, sont eux biberonnés, formés à l'agroécologie. Donc il y a dans la structure étatique, à 40 ans ou 20 ans ou 30 ans d'écart, des structures de formation et de conception de l'agriculture qui sont différenciées. Donc le conflit qu'on voit agriculture contre écolo, c'est caricatural de le placer comme des forces de groupes sociaux externes. C'est aussi au sein même des familles des logiques générationnelles. Alors bien sûr, ce sont aussi des logiques à distance dans différents types de groupes, hein. Bien sûr que les nouveaux entrants nécessaires à l'agriculture, aujourd'hui par exemple, les écoles d'agronomie, elles sont remplies de filles, hein. C'est beaucoup plus de jeunes femmes ingénieurs et agronomes que d'hommes. Dans les lycées agricoles, c'est plus réparti, mais en haut de la structure agricole, ce sont essentiellement des femmes aujourd'hui. Et en formation, hein, je ne dis pas qu'elles vont toutes devenir chefs exploitantes, elles vont aller dans d'autres types de professions, d'autres trajectoires, ça dépend des structures familiales de reproduction de l'agriculture, mais on a quand même, à l'évidence, on est face à une reproduction du groupe agricole qui va prendre des formes très différentes par rapport à celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez raison de parler d'un groupe fortement homogame, qui n'a absolument aucun équivalent dans les autres groupes sociaux, puisque les agriculteurs, il y a une entrée, un coût d'entrée, une barrière à l'entrée capitalistique qui est énorme, puisque le foncier, il n'est pas disponible en dehors des systèmes de reproduction familiale ou disponible simplement pour des productions marginales, comme sur des petites surfaces. Donc le maraîchage est accessible, mais la pour devenir céréalier, il y a un nombre de terres à acquérir au départ qui est absolument phénoménal. Donc la logique de la transformation de la formation du groupe social agricole est aujourd'hui par de nouveaux entrants dans les mondes agricoles et ça cessera de se développer dans le futur et donc des socialisations politique, économique, différente du groupe agricole auquel nous faisons face aujourd'hui. Donc dans 10, 20 ou 30 ans, le groupe agricole aura été complètement bouleversé, ça c'est sûr.
Et pour conclure, vu que ça va être la fin de notre entretien, il y avait un ouvrage assez intéressant, c'est la sociologie économique de l'agriculture, c'était Bertrand Hervieux et François Purcell qui avaient fait une agriculture sans agriculteur. Et notez que si tous les agriculteurs sont pas fragiles, loin de là, la recomposition en cours a fait plus de perdants que de gagnants. Donc vous avez travaillé sur les gagnants, les céréaliers, mais il y a beaucoup plus de perdants. Et c'est bien pour ça qu'il y a une crise dans cette reconfiguration donc de monde agricole, du fait aussi des marchés mondiaux et de cette modernisation agricole, qui est dans un sens capitalistique, qui voit sur une crise. Eh ben, on vous remercie pour cet entretien. Donc, on rappelle hein, le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné avec Yvan Bruno, Nicolas Rénaï, Julien Michy, c'est Monde rural et classe sociale aux éditions de l'EHESS. Et les autres, c'est l'embourgeoisement agricole aux éditions Raison d'agir. Voilà, et ben on vous remercie pour cet entretien et on vous souhaite une bonne continuation.
Ben merci pour tout, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et ben bonne journée à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les premiers et troisièmes mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.